a été conduite dans la paix et la dignité par le peuple et surtout par la jeunesse, nous sommes désormais débarrassés de la vie qui nous déshonorait. Nous regrettons Mohamed Bouazizi et toutes les victimes qui l'ont suivi en se sacrifiant pour notre salut. L'insécurité et le vide politique sont les premiers obstacles que rencontre le pays. Cette situation exige de chacun pondération, vigilance et sens des responsabilités. Aux citoyens ainsi qu'aux acteurs de la vie politique et de la société civile de prendre en considération les contraintes et les difficultés que comporte la transition que le pays est amené à traverser, la Tunisie hérite de la désertification de son espace public, la société a été dépouillée de sa dimension politique, il ne faut pas ajouter le vide au vide, revenu de ce néant, le peuple s'impatiente à retrouver son être. Pour restaurer le sens de l'État et de la citoyenneté, il convient de se conformer dans l'immédiat à la légalité constitutionnelle, de modifier les lois électorales et de se donner le temps pour entamer la réforme fondamentale nécessaire à la démocratisation et à l'exercice de la souveraineté populaire dans la liberté et l'égalité. Un texte très pondéré, sage, et qui a fait à deux choses, en fait, hein, la peur, éviter évidemment quelque chose qui est lointain, mais dont l'esprit est présent, hein, forcément, dans tout ce processus révolutionnaire, il y a toujours la hantise de la terreur, bien sûr, et d'autre part, l'enjeu qui était en dessous, qu'on n'a pas gagné d'ailleurs, c'est le fait d'essayer d'éviter une constituante. Pourquoi? Parce que, c'est ça qu'il y a derrière cela, nous estimions, et nous continuons de l'estimer, mais ce n'est plus de saison, si j'ose dire, que le noyau, malgré toutes les défigurations, les multiples interventions qui ont eu lieu pour justement la présidence à vie de Bourguiba, les interventions pour légitimer, ou légaliser plutôt la multiplicité des mandats de l'ANI, ce qui correspondrait là aussi à une forme de présidence à vie. Toutes ces défigurations n'ont pas entamé le noyau sein de la Constitution de 1959, qui est un acquis exceptionnel dans les pays islamiques, parce que c'est la Constitution probablement la plus moderne avec celle de la Turquie. Où se trouve dans son noyau de 1959, notamment une conception absolument moderne dans l'esprit de l'égalité de la citoyenneté. Et aucune trace, comme une des sources, ou comme source principale, comme c'est souvent le cas dans les constitutions des pays islamiques, à la charia, à la droite. On est totalement dans la logique donc, du droit positif. Et nous avons estimé que là, c'était quelque chose qu'il faut absolument préserver. Plus encore, c'est cet esprit juridique de la Constitution de 1900. C'est le même esprit juridique qui a été à l'origine de l'écriture de la Constitution de 1959 qui a aussi été... qui a été entré en branle pour l'élaboration du statut personnel de 1956. Le statut personnel de 1956, lui aussi, mis à part, et encore, il a été entamé, mais pas totalement oblitéré, mis à part l'inégalité successorale qui est une concession faite à la charia, c'est le statut personnel et d'un le statut personnel avec celui de la Turquie, là encore, le plus avancé dans le monde de jeunesse islamique. Donc là, ces éléments étaient très importants, et d'ailleurs, l'esprit de 1950, le statut personnel de 1956 est le miroir de la Constitution de 1959. C'est cela qu'on voulait préserver, mais je crois que c'est en train de se faire dans le cadre de la... parce que le débat est intense en ce moment sur cette question-là, sur toutes ces questions-là, et dans le cadre de l'Assemblée constituante, puisque les élections qui vont avoir lieu le 24 juillet prochain, c'est pour l'Assemblée constituante, il va y avoir, et est en train d'être élaboré une plateforme avec 8 ou 10 points pour les situer comme des points intouchables, tous les partis qui vont participer aux futures élections signeront donc ce préalable. Et ça, ça me paraît très, très important. D'une certaine manière, la crainte qui est derrière cet appel est en train, je veux dire, la parade au péril que nous soupçonnions ici, qui est en train d'être mise en place. C'est-à-dire qu'on est en train d'en tenir compte. Il faut rappeler aussi que la première élaboration de la loi électorale qui a été proposée au gouvernement provisoire, vous en avez entendu parler, puisque l'information a été diffusée parce qu'elle est vraiment de taille, elle trône notamment la parité, hein, la parité entre les deux sexes, entre hommes et femmes, et une parité pas seulement de candidature, mais d'éligibilité. Parce que vous savez qu'en France, par exemple, le taux pour la candidature, c'est 41% pour les femmes, qui aboutit à 20% dans la Chambre. Donc on perd la moitié, pour ainsi dire, entre la candidature et l'élection directement. Et là, comme on propose pour aussi servir les petits partis, quelque chose de très périlleux, de très dangereux, parce que ça peut être ce type de clic électoral, elle doit avoir pour elle un profond enracinement démocratique. Je ne sais pas si on peut commencer une démocratie par des listes proportionnelles à un seul tour. Mais en tous les cas, dans le cadre de ces listes proportionnelles à un seul tour, il est demandé à ce qu'il y ait alternance des noms. Un nombre de femmes, un nombre d'hommes, un nombre de femmes, un nombre d'hommes, pour que dans les têtes de liste, on trouve aussi la parité. Donc là, c'est étudier d'une manière technique pour que la parité parvienne jusqu'à la Chambre élue. Et ça, c'est un événement considérable. Ce type de précaution, je crois que nous le trouvons constamment dans le
sujet. Je suis bien sûr que vous avez de nombreuses questions à poser. Donc vous avez la parole, peut-être prendre.